midi en temps universel, 14h ici à Paris, 1h de plus à Kiev.
RFI midi.
Le journal, bonjour Olivier Charman.
Bonjour Clotilde Dumay, bonjour à toutes et à tous. Les négociations directes entre la Russie et l'Ukraine se déroulent aujourd'hui à Istanbul. Il n'y aura pas de face-à-face Poutine-Zelensky. Le chef du Kremlin ne conduit pas la délégation russe en Turquie. Le président ukrainien est de son côté à Ankara pour rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. La Fondation humanitaire de Gaza, une nouvelle organisation soutenue par les États-Unis, pourrait distribuer très prochainement une aide dans la bande de Gaza. Une aide devenue vitale pour les 2,5 millions de Gazaouis qui y habitent et qui manquent de tout. La Fondation prévoit la distribution de près de 300 millions de repas en 3 mois. Revers pour le président colombien, les parlementaires rejettent son projet de consultation populaire sur le travail. Face à cet échec cuisant, Gustavo Petro appelle maintenant les Colombiens à se mobiliser. Et puis nous nous rendrons à Cannes et la suite du 78e festival, une industrie du cinéma qui regroupe 15 000 participants venus de 140 pays. Russes et Ukrainiens doivent donc se retrouver ce jeudi en deuxième partie de journée à Istanbul pour discuter de la fin de la guerre en Ukraine. Malgré l'importance de cette réunion, qu'il avait lui-même annoncée, Vladimir Poutine a décidé d'envoyer une délégation simplement emmenée par l'un de ses conseillers accompagné de 2 vice-ministres. Une délégation que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifiée de factice, puisque le chef d'État russe a fait savoir qu'il ne s'y rendrait pas. Alors que le contour de ces échanges directs entre les deux pays, les premiers depuis 3 ans, reste encore flou, Pierre-Olivier, la difficulté pour parvenir à une trêve, c'est aussi que Kiev et Moscou n'ont pas du tout les mêmes exigences.
Non, et d'abord sur l'essentiel, à savoir un possible accord de paix. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et l'Europe demandent à la Russie d'accepter un cessez-le-feu avant les pourparlers. Vladimir Poutine, lui, veut des discussions sur, je cite, les causes profondes de la guerre avant une possible trêve. Et justement, ces causes profondes nous amènent vers les autres points de désaccord. Moscou veut garder les territoires ukrainiens occupés qui représentent presque 1/5 de l'Ukraine. Il veut aussi écarter toute adhésion de Kiev à l'OTAN ou encore que l'Ukraine soit une zone neutre, c'est-à-dire sans aucune base militaire étrangère sur son sol. Que des lignes rouges pour Volodymyr Zelensky qui souhaite de son côté que les sanctions économiques contre la Russie soient maintenues ou encore que la totalité des 300 milliards d'actifs russes gelés en Europe servent à la future reconstruction de l'Ukraine. Voilà, vous l'aurez compris, les exigences des deux camps sont en totale opposition et l'absence de Vladimir Poutine ce jeudi à Istanbul ne devrait pas aider à trouver un terrain d'entente. Volodymyr Zelensky a fait savoir ce matin qu'il avait des doutes sur les capacités de la délégation envoyée par Moscou à prendre des décisions. Moscou qui a répondu tout à l'heure en qualifiant le président ukrainien de clown.
Échange d'insultes, on le voit bien, Pierre-Olivier, entre Ukrainiens et Russes, avancé pour parler, qui montre une réelle tension.
Et dans une quinzaine de minutes, on va revenir sur ces négociations avec le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française et ancien commandant suprême de l'OTAN.
Donald Trump conclut aujourd'hui aux Émirats arabes unis sa tournée dans le Golfe, après l'Arabie saoudite et le Qatar. Cette tournée est le premier déplacement international important de Donald Trump. Une visite déjà marquée par de spectaculaires annonces économiques et pourrait générer, selon lui, jusqu'à 4 000 milliards de dollars de contrats. Riyad a promis 600 milliards de dollars d'investissement. La compagnie aérienne Qatar Airways a passé une gigantesque commande à Boeing pour 200 milliards de dollars. Il a profité de ce déplacement aussi dans le Golfe pour rencontrer le président syrien. Il a créé la surprise en annonçant une levée des sanctions pesant sur la Syrie. Et ce matin, le président américain a déclaré que les États-Unis étaient très proches d'un accord avec l'Iran au sujet du programme nucléaire de Téhéran.
La défense civile palestinienne fait état ce midi de plus de 100 personnes tuées dans de nouveaux bombardements israéliens sur la bande de Gaza.
La plupart à Ran Younes, dans le sud du territoire palestinien, un territoire bombardé quotidiennement et qui est sous le coup d'un blocus total. Une nouvelle organisation humanitaire créée avec le soutien de l'administration américaine pourrait mettre en place un système d'acheminement de l'aide aux civils affamés, et ce dès la fin du mois de mai. Grâce à des accords clés avec les autorités israéliennes. Alice Froussard, bonjour.
Bonjour.
Pour le moment, très peu d'informations précises quant à cette fondation et son futur rôle dans l'enclave côtière ravagée par bientôt 20 mois d'attaque israélienne. Alors, que sait-on exactement ?
Eh bien, la Fondation humanitaire pour Gaza a été enregistrée en Suisse au début de l'année. Elle se targue d'avoir réuni des experts chevronnés afin de mettre en place ce nouveau système de distribution alimentaire à Gaza. Mais d'après un document destiné aux donateurs et aux États, ses futurs dirigeants sont avant tout des Américains, en partie d'anciens militaires. Aucun n'a de lien apparent avec l'aide humanitaire ni même d'expérience dans ce domaine. De nombreux défenseurs des droits de l'homme mettent en garde. Le risque existe que cette fondation puisse contribuer à des crimes internationaux, car elle court-circuite l'acheminement traditionnel de l'aide. Le plan A consiste donc à nous laisser entrer, insiste Tom Fletcher, le chef des affaires humanitaires de l'ONU. Il n'offre pas non plus de solution claire à long terme, dénonce Mara Bernasconi. Elle est responsable plaidoyer de Handicap International pour les territoires palestiniens occupés.
Ce plan renforce l'occupation plutôt que d'y mettre fin. Et évidemment, il viole l'avis de la Cour internationale de justice qui en exige la fin.
That the occupation must end.
La semaine dernière, lors d'une conférence de presse, l'ambassadeur des États-Unis en Israël l'a lui-même reconnu. Ce nouveau système risque lui aussi d'être confronté à des difficultés, mais a-t-il ajouté, le danger, c'est de ne rien faire.
Alice Roussard, du service international de RFI.
Et pendant ce temps, ce jeudi, Olivier, c'est aussi la commémoration des 77 ans de la Nakba.
Ce terme arabe qui signifie catastrophe se réfère au déracinement d'au moins 750 000 Palestiniens de leur terre lors de la création de l'État d'Israël. Toute cette semaine, des manifestations et des marches dites du retour sont organisées dans des camps de réfugiés et les grandes villes palestiniennes.
L'Inde exige que les armes nucléaires du Pakistan soient placées sous surveillance de l'Agence internationale pour l'énergie atomique.
Une demande quelques jours après leur confrontation militaire, la plus grave des deux dernières décennies. Le Pakistan n'a pas encore réagi. L'Inde et le Pakistan, qui possèdent tous les deux l'arme nucléaire, ont connu la semaine dernière leur confrontation militaire la plus meurtrière depuis la guerre qu'ils se livrent depuis 1999.
En Colombie, le premier président de gauche du pays, Gustavo Petro, n'a pas convaincu le Sénat.
Hier, les parlementaires ont décidé de rejeter son projet de consultation populaire sur le travail, une liste de 12 questions que le gouvernement voulait soumettre au référendum. Par exemple, êtes-vous d'accord pour limiter la journée de travail à 8 heures ou pour mieux rémunérer le travail le dimanche ? Face à cet échec cuisant, Gustavo Petro a appelé les Colombiens à se mobiliser, Juliette Chenion.
Oui, et dans une vidéo publiée hier, Gustavo Petro appelle ses soutiens à manifester et organiser des réunions publiques dans tout le pays.
Llegó la hora del pueblo.
L'heure du peuple est venue. Notre réponse à la corruption et à la fraude du Sénat sera calme, sans violence. C'est eux qui sont violents, pas le peuple.
Gustavo Petro demande donc aux sénateurs de revoter son projet de référendum sur le travail. Il dénonce un blocage institutionnel et l'un de ses ministres annonce porter plainte contre le président du Sénat qui est accusé d'avoir clos le scrutin avant que tout le monde n'ait pu voter. En face, l'opposition d'extrême droite reproche à Gustavo Petro une opération séduction des électeurs de gauche. À un an de la présidentielle, le sénateur conservateur Miguel Uribe.
Ce gouvernement cauchemardesque s'en ira en 2026. Gustavo Petro se sert de ce référendum populaire. C'est une arnaque, une embuscade, un grand complot.
Il y a deux ans, le Parlement colombien avait déjà rejeté un projet de loi travail proposé par le gouvernement. Les élus se disent aujourd'hui prêts à le reconsidérer. Gustavo Petro, lui, prévient, il n'hésitera pas à faire passer sa réforme par décret si nécessaire.
Juliette Chenion du service international de RFI.
Il est 14h08 à Paris, la suite de votre journal, Olivier Charman, et on revient à présent sur l'audition de François Bayrou hier devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire.
Une audition interminable, plus de 5 heures. Le Premier ministre a dû dire sous serment ce qu'il savait sur les violences commises à l'école Bétaram de Pau, dans le sud du pays, son fief politique. Les débats ont été houleux, électriques. Le chef du gouvernement s'est défendu pied à pied sur son rôle politique et personnel à l'époque, remettant en cause le travail de la commission et suscitant donc son agacement. Aurélien Devernois.
Une demi-journée après la fin de l'audition de François Bayrou, Fatia Kelouachi, présidente de la commission des affaires culturelles, dont dépend la commission d'enquête, est encore furieuse.
Il a remis en cause les rapporteurs, il a remis en cause ma présidence. 2 mois d'audition, plus de 140 personnes auditionnées. François Bayrou a été auditionné comme tous les autres.
La stratégie de défense du Premier ministre a en effet visé le sérieux du travail mené depuis plusieurs mois, ce que déplore également la co-rapporteuse, la macroniste Violette Spielboot.
Je crois en pouvant dire que j'appartiens au bloc
centrale, que tout au long de ces auditions, j'ai gardé mon intégrité, mon indépendance.
Tout en affichant son désaccord avec l'interrogatoire mené par son co-rapporteur, l'insoumis Paul Vannier.
C'est une défense extrêmement vigoureuse d'un homme politique qui a été attaqué dans son intégrité par mon collègue Paul Vannier.
Particulièrement visé par François Bayrou, qui l'accuse de mener un procès politique, celui-ci dénonce des mensonges et une minimisation des faits par le Premier ministre.
Le Premier ministre est empreint d'une culture de la violence sur les enfants qu'il a à nouveau manifesté en relativisant devant nous des gestes qu'il a décrits comme des gestes éducatifs, des claques, des gifles.
Un mélange de combats politiques et de règlements de compte qui a parfois rendu inaudible l'audition de François Bayrou au détriment de l'objet de la commission, lutter contre les violences en milieu scolaire.
Les précisions d'Aurélien Devernois. En Nouvelle-Zélande, une mesure sans précédent contre 3 députés.
Ces membres du parti Maori pourraient être suspendus temporairement de l'Assemblée pour avoir fait le haka, danse traditionnellement effectuée dans l'arène des stades de rugby et non dans l'enceinte de l'Assemblée. Ils pourraient recevoir une punition particulièrement sévère et symbolique, Nicolas Roca.
Des images qui ont fait le tour du monde et qui pourraient leur valoir une sanction sans précédent. En novembre dernier, 3 députés maoris interrompaient une séance pour protester contre un projet de loi. L'une des élus déchirait même une copie du texte tout en entonnant un vibrant haka sous le regard de ses collègues. Ce texte visait à modifier le traité de Waitangi, signé il y a plus de 200 ans entre les populations locales et les colons britanniques. Une loi qui aurait pu entraîner la suppression de certains programmes éducatifs pour les Maoris, mais qui n'a finalement pas été adoptée. Cette victoire médiatique et législative pour les 3 élus du Parti de défense des droits des Maoris pourrait avoir un coût. Ils risquent entre 1 et 3 semaines de suspension si le Parlement vote en faveur des recommandations de la Commission. Une peine sévère mais justifiée d'après la Commission par la violence. Du haka, une des élus aurait simulé le tir d'un pistolet, geste faisant partie de la danse traditionnelle selon le parti Maori. Ce dernier a répondu « Lorsque le peuple de la terre résiste, les puissances coloniales appliquent la peine maximale ».
Et puis en Chine, une baisse des émissions de CO2 de 1,6% sur un an au premier trimestre 2025, une baisse modeste mais significative car elle intervient dans un contexte de forte hausse de la demande d'électricité. À Pékin, les explications de Cléa Broadhurst.
Ce changement marque une rupture. Contrairement au précédent repli lié à un ralentissement économique, cette fois-ci, ce sont les énergies propres, solaires, éoliens, nucléaires, qui ont permis de limiter le recours au charbon. La Chine parvient donc à stabiliser, voire à faire baisser ses émissions, tout en maintenant sa croissance électrique. Pour les experts, si cette tendance se poursuit, elle pourrait annoncer un véritable pic, suivi d'un déclin structurel des émissions liées à l'énergie. Plusieurs dynamiques accélèrent ce virage. Une nouvelle politique tarifaire pousse les acteurs du secteur à installer massivement des capacités renouvelables avant son entrée en vigueur, et la guerre commerciale relancée par Donald Trump renforce l'orientation vers un modèle basé sur la consommation intérieure plutôt que sur les exportations. Mais la Chine reste tout près de son dernier pic d'émissions, à peine 1% en dessous. Autrement dit, un simple rebond industriel pourrait inverser la tendance. Et les efforts restent insuffisants pour respecter les objectifs climatiques de l'accord de Paris à horizon 2030. Un signal encourageant donc, mais encore fragile. Le vrai défi pour Pékin sera de rendre cette baisse durable au-delà des effets conjoncturels. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Allez, direction Cannes en France. Pour terminer, Olivier, le tapis rouge de Cannes, c'est Star et son plus grand festival de cinéma du monde.
C'est la 78e édition de cet événement qui est aussi le cœur de l'industrie durant la quinzaine. Créé en 1959, le marché du film réunit cette année près de 15 000 participants venus de 140 pays. Plongé au cœur de cet événement, signé de notre envoyé spécial au Festival de Cannes, Guillaume Thibault.
Fourmilière au cœur du palais des festivals, le marché du film réunit la crème de la production du cinéma mondial. Pour cette édition, l'Égypte fait son grand retour, explique Farah Alawa de l'Agonie Film Production.
C'est un excellent endroit pour le business, même pour apprendre des nouvelles choses.
Très présent sur ce marché, l'Asie, particulièrement le Japon, qui doit s'adapter comme le monde entier à une évolution de la consommation des films. Yuka Matoy de la Toy Company est à Cannes pour trouver de nouveaux débouchés.
Le public vient moins au cinéma, les tickets coûtent de plus en plus cher. Les gens regardent les films en ligne. C'est pourquoi cet événement est important, il est puissant et permet de trouver de nouveaux marchés.
Pour développer son cinéma, le Nigeria a envoyé le conseiller spécial à la présidence de la République en charge de la création. Prince Baba Agba voit Cannes comme une ouverture sur le monde.
Notre cinéma est déjà populaire en Afrique. On veut le monétiser sur d'autres marchés. On a réussi à le faire avec la musique, avec l'afrobeat. Donc on veut l'exporter aux États-Unis, au Brésil, en France, en fait partout dans le monde.
Le festival est donc au cœur de l'industrie. En 2024, le marché mondial des salles de cinéma a été évalué à 73 milliards de dollars. Guillaume Thibault, Cannes, RFI.
Vive le ciné, que vive le ciné. Et la suite d'RFI Midi, c'est avec vous, Clotilde Dumais.
Et c'était le journal d'Olivier Charman, on passe au sport. Avec un autre Olivier. Olivier Pro, bonjour.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Beaucoup de football en programme, en Espagne d'abord, où le Real Madrid, mal embarqué, a retardé l'échéance du sacre du Barça.
Grâce à un succès arraché face à Mallorca, 3-2, qui prive pour le moment, pour quelques heures peut-être, qui sait, le Barça du titre en Liga. Mené 2-1, les Merengues l'ont emporté grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé, son 28e, on le rappelle, dans ce championnat qu'il a découvert cette saison, avant que Yacobo Ramon, 20 ans, 4e match en pro seulement, ne scelle ce succès, donc 3-2 dans le temps additionnel. Pour le gardien belge du Real, Thibaut Courtois, c'est le signe que son équipe ne lâche rien, même s'il faudrait une énorme défaillance du Barça pour que le Real soit finalement champion.
Oui, le début de match est un peu à l'image de notre saison, avec un peu de malchance. Il marque et ensuite leur gardien fait une superbe prestation. Mais on a continué à ne rien lâcher, à se battre, et malgré la déception de la défaite à Barcelone dimanche, on continue à y croire, comme le réclame cet écusson du Real Madrid. Alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'écart entre nous et le Barça, mais on croira jusqu'à ce que ça ne soit plus mathématiquement possible.
Et le Real Madrid revient donc à 4 points du Barça, qui peut être sacré aujourd'hui.
Ouais, si les Catalans s'imposent chez leurs voisins de l'Espagnol Barcelone, ils décrocheront leur 28e titre de champion d'Espagne. Et c'est bien de cela dont il est question avant de se projeter sur la prochaine saison, rappelle l'entraîneur du club catalan, Hansi Flick.
D'abord, ce qui est très important, ce sont les 3 derniers matchs. Et après la saison, on parlera de tout ça. Je pense que ce n'est pas le bon moment maintenant pour y penser, parce que je dois rester concentré pour ces 3 matchs. C'est très important pour nous. Comme je l'ai dit à l'équipe, on est ici pour gagner les matchs, donc on doit être concentré sur ce que l'on veut. Je pense que c'est aussi une question de respect envers l'autre équipe, envers nos supporters, envers le club. Ce n'est pas le moment de se disperser. On est concentré sur ce match et il est très important pour nous et aussi pour la Liga afin de montrer qu'on est engagé, concerné. C'est comme cela que l'on veut faire.
Le derby catalan, espagnol, Barça, 19h30, temps universel.
Du football encore en Italie, cette fois-ci, où le Milan AC a raté son pari.
Oui, celui de remporter un titre cette saison. Les Rossoneri ont perdu, et fort logiquement, la finale de la Coupe d'Italie hier face à Bologne, 1-0. Pour Bologne, c'est historique. Le club remporte son premier titre depuis 1974. C'était déjà la Coupe. Pour les Milanais, c'est pathétique, pas de titre et surtout sans doute pas d'Europe la saison prochaine. Et forcément un entraîneur, le portugais Sergio Conceição, dépité après la rencontre.
Je suis d'accord avec le fait qu'on a un peu raté notre match. On a eu quelques situations pour marquer, on aurait pu faire plus, avec peut-être un peu plus de réussite. Mais il faut le reconnaître, il faut féliciter les joueurs de Bologne parce qu'ils ont gagné cette Coupe d'Italie. De notre côté, il fallait faire plus. On est venu pour gagner après une saison difficile, dans un contexte difficile. Mais je crois que Bologne a fait le match qu'on aurait dû faire. Il nous manquait leur état d'esprit.
L'AC Milan, qui va terminer sa saison en visant tout de même une qualification européenne, pas gagnée hein, avant les 2 dernières journées à disputer. 3 points de retard sur le 6e, l'AS Rome, prochain adversaire des Milanais en Serie A.
Du basket, la NBA, comme l'an passé, Minnesota qualifié pour la finale de la Conférence Ouest.
Les Timberwolves, comme on les appelle, vainqueurs de Golden State 121-110, des Warriors privés de Stephen Curry et qui n'ont donc pas fait le poids en s'inclinant 4-1 dans la série. Minnesota affrontera Denver ou Oklahoma City dans la conférence Est. Le champion Boston est dos au mur, mais il a réussi à rebondir à domicile pour remporter le match 5, 127-102 contre les Knicks de New York. Enfin, en tennis, Clotilde, 2 derniers quarts de finale à Rome cet après-midi. Sinner numéro 1 mondial face au Norvégien Rude, tête de série numéro 6. Et puis en ce moment, l'Américain Tommy Paul face au Polonais Urkas.
Les sports, signé Olivier Pron. Ce sont les premiers pourparlers directs entre Kiev et Moscou depuis le printemps 2022. C'était quelques semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine. Des négociations sont donc prévues aujourd'hui en Turquie. Ce sera a priori vraisemblablement sans Vladimir Poutine, qui ne fait finalement pas partie de la délégation russe, mais avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui rencontre à Ankara son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Nous sommes en ligne avec le général Jean-Paul Paloméros. Bonjour.
Bonjour.
Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française, ancien commandant suprême de l'OTAN. D'abord, question toute simple, général Paloméros, que peut-on attendre de ces négociations ?
Oh, il faut pas en attendre des merveilles. Le fait qu'il y ait des négociations, on peut déjà considérer qu'en soi, c'est une avancée. Mais quand on voit le niveau des négociateurs, et je parle en particulier du niveau des négociateurs russes, on voit qu'ils sont en mission, commandés, et à mon avis, leurs marges de manœuvre sont absolument nulles, qu'ils reprendront, à mon avis, la rhétorique habituelle russe de M. Poutine sur le fait que l'Ukraine doit être neutralisée et tout ce qui va avec. Donc, on sent que M. Poutine essaye de rentrer dans un cadre de manière à ne pas déplaire aux Américains, à M. Trump, pas donner l'impression qu'il refuse. Mais sur le fond, je crois que rien n'a changé.
Le fait que Vladimir Poutine ne se déplace pas en Turquie, ça aussi, est-ce que ça élimine d'une certaine façon d'ores et déjà tout espoir d'avancer ?
Ça montre tout le dédain qu'il a vis-à-vis du président Zelensky. Et oui, bien sûr, il ne pouvait pas se montrer à ce niveau-là. Ça aurait été, lui, il viendra s'il y a un résultat très positif, ce qui me paraît invraisemblable. Les Ukrainiens ne vont pas lâcher comme ça du jour au lendemain. Mais et d'ailleurs, M. Trump aussi, ils viendront au secours de la victoire, en quelque sorte, s'il y a une avancée très significative, mais ça sera, à mon avis, ce ne sera pas le cas.
On va revenir tout à l'heure, effectivement, sur le rôle de Donald Trump, mais un mot peut-être sur cette délégation russe, Jean-Paul Paloméros. Donc, pas Vladimir Poutine, pas de Sergueï Lavrov non plus, c'est Vladimir Medinsky qui mène cette délégation russe, et on se rappelle que c'est lui, déjà, qui avait un petit peu géré les dernières négociations directes en 2022, donc juste après le début du conflit, négociations qui avaient échoué. Donc, là aussi, on imagine que c'est pas forcément un bon signal.
Non, Medinsky, il faut se souvenir qu'il a écrit qu'il a commis des écrits très nationalistes. Non, c'est pas du tout le bon niveau. Et il est clair qu'ils sont là en mission, et ils ne bougeront pas de la voie du parti.
Volodymyr Zelensky, de son côté, a dit tout à l'heure qu'il allait réfléchir à son plan d'action après sa rencontre avec le président turc Erdogan. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Qu'est-ce qu'il peut décider à l'issue de cette discussion ?
Monsieur le président Zelensky, il est toujours à la recherche, il essaye de créer un club d'amis, si je puis dire, et le soutien évidemment de la Turquie est utile et précieux. Donc ça c'est un point. Et le fait que Monsieur Poutine ne soit pas là, ça peut peut-être jouer dans la balance. Maintenant, M. Erdogan, on connaît toute sa prudence. Enfin, sa prudence, c'est surtout son...
Quel rôle, justement, est-ce qu'il peut jouer, oui, M. Erdogan, entre l'Ukraine et la Russie ?
Il se présente un peu comme entremetteur. Jusqu'à présent, en tout cas, il a joué le jeu. Il a fermé les détroits, puisqu'il en est le gardien. Et donc, la flotte russe n'a pas pu se reconstituer. La flotte de guerre russe n'a pas pu se reconstituer. Donc, il n'a pas fait de faute contre l'esprit. Mais il essaye d'entretenir un lien entre les deux parties. Et ça, effectivement, c'est un rôle qui peut être utile. C'est pour ça que c'est intéressant que M. Zelensky puisse le voir et discuter avec lui.
Qu'est-ce qui bloque toujours concrètement Jean-Paul Paloméros dans ces négociations ? Est-ce que ce sont essentiellement les revendications russes ?
Oui, bien sûr, c'est l'attitude des Russes. On voit que le président Zelensky, d'abord il est là, comme il s'y était engagé. Et puis, il est prêt à ouvrir une négociation. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt à tout lâcher, hein, de loin. Mais du côté des Russes, eux, ils sont prêts à rien lâcher. Et ils sont toujours sur la même ligne. la neutralisation de l'Ukraine, quasiment sa démilitarisation, évidemment l'annexion de fait des oblasts. Donc tout ça, tout ce qui est absolument inacceptable pour les Ukrainiens, ce qui le montre d'ailleurs dans les sondages qui sont faits en ce moment. Ils soutiennent M. Zelensky à plus de 70%.
Les Ukrainiens, quand même, est-ce qu'ils ne pourraient pas faire un pas, notamment sur la Crimée? On en parle beaucoup, hein, de ce territoire annexé par la Russie depuis 2014. Officiellement, l'Ukraine dit que rien n'est possible, mais officieusement, est-ce que c'est peut-être un terrain sur lequel on pourrait avancer?
Pour avancer sur ce terrain-là, il faudrait que d'abord des négociations sérieuses se mettent en place pour définir un cadre de neutralisation à un moment ou à un autre de cette partie-là de l'Ukraine, en disant on verra plus tard. Pour l'instant, de fait, ce sont les Russes qui l'occupent. C'est pas pour ça que les Ukrainiens abandonnent toute volonté de souveraineté sur ces oblasts, et en particulier sur la Crimée. Mais bon, comme il faut s'arrêter de faire la guerre, voilà, on va essayer de créer un environnement qui soit acceptable pour des négociations futures sur ce point. Je pense que les Ukrainiens ne se font pas trop d'illusions sur le fait qu'ils auront beaucoup, beaucoup de mal à faire reconnaître la Crimée comme ukrainienne dans des négociations à court terme.
Les Ukrainiens, ce qu'ils attendent aussi, ce sont des garanties de sécurité qui seraient assurées par les alliés occidentaux. D'ailleurs, si on repense un petit peu à cette séquence de négociations qui s'est quand même accélérée depuis la visite la semaine dernière des dirigeants français, allemands, polonais et britanniques, eux, ils ont exigé un cessez-le-feu de 30 jours, ils ont menacé la Russie de sanctions massives le cas échéant. Quelles sanctions ça peut être? Pour le moment, on n'a pas vraiment de précision.
Non, alors on parle beaucoup des flottes fantômes, mais c'est compliqué.
Il y a eu un nouveau train de sanctions, effectivement, qui a été adopté hier.
Oui, mais on voit que ces flottes fantômes qui n'ont pas de pavillon, par définition, elles naviguent en eau internationale. Quand on essaye de les arraisonner, c'est très compliqué. Il y a eu un épisode là, ce jour-ci.
Peut-être pour expliquer donc des flottes fantômes qui seraient donc utilisées par la Russie pour un peu contourner les sanctions pour continuer à exporter du pétrole.
Voilà, c'est ça. Ça leur permet d'envoyer du pétrole brut qui se fait raffiner ailleurs, en Inde, par exemple, un grand pays qui fait du raffinage et qui revend ensuite ce pétrole raffiné à d'autres pays, y compris en Europe. C'est compliqué parce que, si vous voulez, c'est dissymétrique. L'approche est dissymétrique. Les Russes permettent un certain nombre de choses, mais pour faire appliquer des sanctions, il faut aussi quelque part pouvoir neutraliser cette flotte fantôme. Or, elle navigue en eau internationale et c'est interdit d'arraisonner des bâtiments dans les eaux internationales. Donc il faudrait une résolution, évidemment, du niveau des Nations Unies. Mais aux Nations Unies, il y a un droit de blocage, un de veto de la Russie et de la Chine. Donc on tourne un petit peu en rond. Évidemment, les Russes jouent de cette ambiguïté.
Un mot du rôle de Donald Trump, Jean-Paul Paloméros, qui dit à l'instant, a priori, que rien ne va se passer sur l'Ukraine tant qu'il n'aura pas rencontré Vladimir Poutine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio lui a déclaré que les États-Unis étaient ouverts à pratiquement tous les mécanismes qui permettraient de parvenir à une paix. On a quand même un petit peu l'impression que Washington manque de solutions.
Oui, parce que Il y a un non-dit là-dedans, c'est qu'envisage Trump et son environnement, son entourage sur la stratégie d'un peu plus long terme avec la Russie. Est-ce que Trump, comme il le fait ailleurs, veut un big deal, un gros marché avec la Russie très large, auquel cas il va continuer à peu près sur la même attitude qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le nini en quelque sorte, et surtout pas soutenir ouvertement l'Ukraine et encore moins lui fournir des armes, parce que le vrai sujet pour les Ukrainiens, c'est ça, c'est l'arrêt progressif de toute livraison américaine, et ça c'est très difficile à encaisser parce que les Européens ne peuvent pas compenser, en tout cas pas complètement. Donc bien sûr que on est dans une période absolument délicate pour tout le monde, et là Monsieur Trump ne met pas son poids dans la balance aujourd'hui.
Et on va voir effectivement comment les choses vont évoluer. Merci beaucoup Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française et ancien commandant suprême de l'OTAN.
8 milliards de voisins. Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème de demain.
À l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, pourquoi les agressions anti-LGBT augmentent-elles en France en 2025 ? Et comment finir avec la discrimination dès l'école ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Après deux romans réalistes très remarqués, Gaëlle Bellem a choisi de se tourner vers le fantastique. S'inspirant des légendes de La Réunion, son île natale, elle a imaginé 13 histoires où l'horreur côtoie la terreur avec des fantômes, des créatures ou encore des phénomènes inexpliqués. Un recueil intitulé Sud Sauvage.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.